Madame, Messieurs, bonjour. Je vais donc vous parler aujourd'hui de égalité, esclavage, suffrage, comme c'était affiché, et pour des raisons que vous allez découvrir, le sous-titre, les mots et les choses. Et Bernard Manin a bien voulu accepter d'ouvrir la discussion à la suite de la présentation. Il s'agit des textes que vous connaissez trop bien pour qu'il soit nécessaire de les lire, de la Déclaration d'indépendance et de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, affirmant l'égalité selon diverses, dès la naissance, comme vous le voyez, créée et demeure libre et égaux. Et mon intention dans cette présentation, c'est de confronter ces déclarations de principe faites des deux côtés de l'Atlantique avec deux pratiques adoptées par les deux assemblées constituantes, à savoir l'esclavage et le suffrage restreint. Au total, cela fait donc quatre sujets. À propos du suffrage restreint, je ne parlerai pas de l'exclusion des femmes du droit de voter, pour la simple raison que ce ne fut jamais un sujet de discussion dans les assemblées, et à peine, et seulement en France, dans les débats publics. De prime d'abord, les constituants français et américains, du moins la plupart d'entre eux, semblent nettement hypocrites en affirmant l'égalité en principe tout en la niant dans la pratique. Qu'il ait été, je ne le nie pas. Pas plus que je ne nierai l'hypocrisie des gouvernements américains quand ils ont proclamé la démocratie tout en soutenant les dictatures, ou celle des dictatures communistes quand ils ont affirmé les droits de l'homme tout en les violant. Ou en insistant sur leur hypocrisie, il est difficile d'éviter un moralisme facile. Il me semble plus intéressant de réfléchir sur les causes et les effets de cette divergence entre les principes et la pratique. En ce qui concerne les causes, mes remarques seront brèves et franchement spéculatives. Par contre, il est possible de faire des propositions mieux fondées sur les effets, puisqu'on peut alors s'appuyer sur les textes. La Déclaration d'indépendance et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont des textes révolutionnaires, dirigés le premier contre l'Angleterre et le second contre l'Ancien Régime. Selon une vénérable tradition marxiste, une classe révolutionnaire, et l'on pourrait peut-être ajouter un pays révolutionnaire, tend à généraliser ses demandes propres. La demande de l'abolition d'une tyrannie particulière ou de privilèges particuliers acquiert une force psychologique plus grande et se révèle capable de déclencher un enthousiasme plus mobilisateur quand elle prend la forme d'une demande de l'abolition de toute tyrannie ou de tout privilège. En même temps, la forme généralisée risque de déborder les intentions et les intérêts des dirigeants. Aux États-Unis, les indépendantistes, le plus souvent membres des élites coloniales, ont pu constater que la rhétorique dont ils se servaient pour attaquer l'Angleterre serait tournée contre eux-mêmes dans la forme de demandes de régime plus démocratique dans les 13 nouveaux États. Et en France, le langage universaliste de la Déclaration, surtout de l'article 1, qui parle des droits des hommes et non pas des droits des seuls citoyens, vint rapidement à gêner les propriétaires. Et je vais considérer dans cette optique générale le suffrage limité et l'esclavage. Bien que les deux pratiques eussent en commun de se heurter aux principes affichés dans les déclarations, les dynamiques politiques déclenchées par chaque conflit étaient très différentes. Dans les débats sur le suffrage limité, on opposait une partie du mouvement révolutionnaire à une autre. Mais dans les débats sur l'esclavage, on affirmait ou niait les droits de personnes entièrement extérieures au mouvement. Je fais d'abord deux remarques préliminaires, la première relative au suffrage, la seconde à l'esclavage. La Déclaration d'indépendance de 1776 fut un texte révolutionnaire. Or, à la Convention de Philadelphie, 11 ans après, les Américains étaient entrés dans une phase contre-révolutionnaire. On en a souvent parlé dans ce séminaire. Après avoir accompli deux pas en avant, ils allaient maintenant faire un pas en arrière. Les débats à la Convention fédérale, notamment les débats sur le suffrage, reflètent cette tendance conservatrice. En fin de compte, les constituants se sont abstenus d'imposer dans la Constitution des limites au droit de voter et d'être élu. Je vais examiner les raisons de cette abstention et vous expliquer qu'elle ne devait rien au principe de l'égalité. Les constituants français, qui étaient portés du début à la fin par une vague révolutionnaire, imposèrent des limites relativement faibles au droit de voter. Mais par une astuce que je vous expliquerai, ils réussirent néanmoins à créer une distribution très inégale de l'influence politique. La deuxième remarque concerne les enjeux dans les deux assemblées. À Philadelphie, il s'agissait de sauver l'Union et d'en empêcher la fragmentation et même la guerre civile. À Versailles, puis à Paris, il s'agissait de sauver la Révolution. Dans les deux cas, on affirmait que l'abolition de la traite des Noirs ou de l'esclavage mettrait en danger la réalisation de ces deux valeurs suprêmes. En Amérique, les États sudistes menaçaient carrément de se retirer de la Convention si leurs intérêts n'étaient pas garantis dans la Constitution. En France, certains constituants craignaient la ruine du royaume et le retour à l'Ancien Régime si la traite ou l'esclavage était mis en question. Dans les deux cas, surtout en France, la situation était bien sûr beaucoup plus compliquée que ne le suggèrent ces observations sommaires, qui ne constituent qu'une première entrée en matière. Je vais me pencher d'abord sur la question du suffrage, laquelle est nettement moins compliquée que celle de l'esclavage. Je commence par une question dont on débattait dans les deux assemblées, la prétendue nécessité de limiter le droit au suffrage dans l'intérêt même de ceux qui en seraient privés. Je citerai d'abord une intervention de gouverneur Morris, puis une autre, plus subtile, de James Madison. Donc, selon les notes de Madison, gouverneur Morris avait depuis longtemps appris à ne pas être dupe des mots. Donc, voilà la première, le premier exemple de ce rapport entre les mots et les choses. Le mot d'aristocratie, par conséquent, n'eut pas d'effet sur lui. C'était à la chose, pas au nom, qu'il était opposé, et une de ses principales objections à la Constitution, telle qu'elle est à présent devant nous, est qu'elle fait peser sur ce pays la menace d'une aristocratie. L'aristocratie émergera de la Chambre des représentants. Donner le droit de vote au peuple, qui n'a pas de propriété, et il le vendra aux riches, qui seront capables de l'acheter. À cet argument contre un suffrage élargi, Madison en ajoute un autre. Si la condition constitutionnelle serait ou non la propriété foncière, cela dépendrait beaucoup, selon lui, de la réception probable qu'un tel changement rencontrait dans les États, où le droit était à présent exercé par toutes les catégories du peuple. Dans les États où le droit, ce n'était pas le cas dans tous les États. Dans plusieurs États, une propriété foncière était maintenant la condition. Considérant le sujet sous ses seuls mérites, les propriétaires fonciers du pays seraient les dépositaires les plus sûrs de la liberté républicaine. Dans le futur, une grande majorité du peuple sera non seulement sa propriété foncière, mais même sans aucune propriété. Ceux-ci se coaliseront sous l'influence de leur situation commune. Dans ce cas, les droits de propriété et la liberté publique ne seront pas en sécurité entre leurs mains. Ou, ce qui est plus probable, donc c'est l'idée de Maurice, ils deviendront les instruments de l'opulence et de l'ambition, et dans ce cas, il y aura un danger égal de notre côté. Nous constatons d'abord que Madison offre un argument qui explique sans doute l'absence d'un sens dans la Constitution, à savoir la crainte qu'une telle restriction n'amène le rejet de la Constitution proposée par les assemblées des États les plus démocratiques. Ensuite, observons que Madison esquisse deux branches du scénario dans lequel les citoyens sans aucune propriété auraient le droit de voter, ou bien ils voteraient dans l'intérêt des riches qui auraient acheté leur vote, ou bien ils voteraient dans leur intérêt propre. Et Madison affirme donc que, si nous mettons entre parenthèses la question de la ratification, que le sens permettrait d'éviter à la fois l'oligarchie et la démocratie. Et comme on va le voir, on retrouve cette double crainte dans l'Assemblée française. Je vous citerai d'abord deux extraits des débats sur la révision de la Constitution le 11 août 1991, dans lesquels plusieurs orateurs se prononcèrent en faveur d'un sens plus élevé que celui, léger, que représenterait l'exigence de payer un impôt direct égal au salaire de 3 journées de travail. D'abord, le constituant Prunion. Il y a évidence entière qu'un homme qui ne paie qu'une imposition égale à celle de 3 jours de travail est à peu près sur la ligne des mendiants, et se donner à cette classe d'hommes une prépondérance dangereuse dans les assemblées. Ce sont d'ailleurs des voix susceptibles d'être achetées et à un prix assez faible. Et puis, sans doute, l'intervention plus décisive, celle de Barnard, s'il est vrai que dans une constitution établie, tous ceux qui veulent le bien ont le même intérêt, il faut placer ces choix dans ceux qui ont des lumières et un intérêt tel qu'on ne puisse pas leur présenter un intérêt plus grand que celui qui les attache à la chose commune. Quand vous vous éloignerez de ces principes, vous tomberez dans l'abus du gouvernement représentatif. L'extrême pauvreté sera dans le corps électoral et elle placera l'opulence dans le corps législatif. C'est comme on entend gouverneur Maurice. Vous verriez bientôt arriver en France ce qui arrive en Angleterre, où les électeurs s'achètent dans la bougue, non pas avec de l'argent, mais avec des pots de bière. Avant de poursuivre d'autres aspects de ce débat, je voudrais faire une brève digression sur Bentham. Dans un texte rédigé vers la fin de 1788 ou au début de 1789, proposant des réponses aux questions que Necker avait faites à la deuxième assemblée des notables, Bentham, écrivant dans un français un peu boiteux, considère deux objections au suffrage masculin illimité. Je ne parlerai que de la première. Les uns contestent au candidat, c'est-à-dire l'électeur, la capacité de connaître ce qui lui serait avantageux. Les autres, celle d'agir d'après cette connaissance supposée qu'il eut. Je commence par ceux de la dernière classe. Qu'est-ce qui empêcherait le votant d'agir d'après ses connaissances telles quelles en agissant d'après sa propre volonté? Ce ne serait que l'influence irrésistible de quelque autre individu. Heureusement, il y a une considération qui suffit pour éliminer cette objection, c'est le moyen qu'offre le scrutin, c'est-à-dire le vote secret, pour soustraire cette influence un chacun avec la dernière certitude. Remarquez bien l'aveuglement qui règne à ce sujet en Angleterre. Dans tout ce qu'on dit, et on a tant dit, sur ce sujet, on ne quitte jamais ce lieu commun de dépendance et d'indépendance, tandis que par ce moyen si simple, toute telle dépendance peut s'anéantir tout à fait. Bentham avait évidemment raison. Si l'on avait vraiment voulu éliminer le risque de dépendance et celui de l'achat de vote, le vote secret, bien encadré et protégé, aurait suffi. Les constituants américains et français étaient certainement conscients de cette option. Et en France, on peut notamment citer ces extraits d'un débat à l'Assemblée, où d'abord M. Desmeunier propose le projet de l'organisation des municipalités en cet article au nom du comité de constitution. L'article 2 est rédigé comme suit. Lorsque plus de la moitié d'une assemblée de communauté ou d'une assemblée primaire ne saura pas écrire, on fera l'élection à haute voix, après avoir consigné la vérité du fait dans un procès verbal. M. Barnard regarde cet article comme inutile et dangereux. L'élection à haute voix pourra avoir des suites très fâcheuses dans les campagnes où l'influence d'un seul est infiniment active. L'Assemblée écarte l'article second par la question préalable. Si néanmoins les deux assemblées n'ont pas proposé un suffrage élargi joint au vote secret, c'est sans doute pour la raison indiquée par Madison, à savoir la crainte que les sans-propriétés ne se coalisent sous l'influence de leur situation commune. Et comme l'observe aussi Jaurès, ce n'est pas seulement comme classe propriétaire, c'est aussi comme classe révolutionnaire que la bourgeoisie se défiait de cette foule obscure. Sans doute ces deux craintes se mêlaient dans son esprit, il redoutait que le prolétariat anarchique ébranlât la propriété et il redoutait que le prolétariat servile compromît la révolution. Or, il était sans doute plus facile de faire accepter l'argument selon lequel le suffrage des démunis serait contraire à l'intérêt même de ceux-ci que l'idée selon laquelle il serait contraire à l'intérêt des nantis. Il convenait donc de faire semblant d'ignorer l'existence d'une solution au problème de l'achat de vote. En France, le sens était doublement difficile à faire accepter. D'une part, il semblait être contraire à la Déclaration, et surtout de l'article 1. D'autre part, il fait contraste avec le mode d'élection des constituants eux-mêmes. Je commence par la tension entre un régime de suffrage limité et la Déclaration. Les constituants utilisèrent deux stratégies distinctes pour réconcilier les deux. D'abord par la distinction entre citoyens actifs et passifs, et ensuite par un système d'élection indirecte. Dans ses remarques sur la manière dont les constituants résolurent cette contradiction, Robespierre dénonça l'hypocrisie verbale dont, comme nous allons le voir, il s'était lui-même rendu coupable lors des débats sur l'esclavage. Mais voilà ce qu'il dit sur le suffrage, sur les citoyens actifs. Les partisans, donc c'est la deuxième occurrence de ce conflit entre les mots et les choses. Les partisans du système que j'attaque, n'osant contester la qualité de citoyen à ceux qu'ils condamnaient à l'exérédatation politique, se sont bornés à éluder le principe de l'égalité qu'ils présupposent nécessairement par la distinction de citoyens actifs et de citoyens passifs. Comptant sur la facilité avec laquelle on gouverne les hommes par les mots, ils ont essayé de nous donner le change en publiant, par cette expression nouvelle, la violation la plus manifeste des droits de l'homme. Mais qui peut être assez stupide pour ne pas s'apercevoir que ce mot ne peut changer les principes, ni résoudre la difficulté, puisque déclarer que tels citoyens ne seront point actifs, ou dire qu'ils n'exerceront plus les droits politiques attachés au titre de citoyen, c'est exactement la même chose dans l'idiome de ces subtils politiques. Robespierre était un des seuls députés à parler contre toutes les mutations du droit de voter. La plupart des constituants favorisaient un sens important, nettement plus élevé que celui des trois journées de travail. Et je reviendrai sur l'astuce par laquelle il parvenait à imposer une sévère limitation de fait, tout en préservant les apparences. D'abord, je voudrais pourtant vous signaler un rare exemple d'hypocrisie publique et explicite, pas dans la constituante elle-même, mais dans le journal de loin le plus vendu à l'époque. C'est Loustalot qui écrit que « Nul citoyen ne doit être privé de la faculté de voter par le droit. Et il importe que par le fait, tous les prolétaires, tous les citoyens susceptibles d'être très facilement corrompus en soient privés. C'est du moins ce qui a lieu à Rome dans les comices par centurie. Et c'est aussi ce que l'on peut facilement obtenir par un choix habile des lieux où les citoyens sont obligés de se rendre pour tenir les assemblées qui doivent députer directement. » Et je voudrais aussi vous citer à ce propos la curieuse analyse que propose Aristote dans la politique des, je cite, « artifices spécieux dont on prétend leurrer le peuple en politique ». Voilà un extrait de sa discussion. Pour l'Assemblée générale, dans certaines cités, ils ne nomment pas lesquelles, on donne à tous les citoyens le droit d'y assister, mais on a soin d'imposer aux riches une amende s'ils ne s'y rendent pas, et cette amende ne s'applique qu'à eux seuls, ou du moins elle est beaucoup plus forte contre eux que contre les pauvres. Quelquefois, il suffit d'avoir été inscrit sur le registre civique pour avoir entré à l'Assemblée générale et au tribunal, mais une fois inscrit, si l'on manque à ses deux devoirs, on est passible d'une amende effrayante. Il a pour but de faire qu'on s'abstienne de s'inscrire, et comme l'on n'est pas inscrit, l'on ne fait pas à leur parti, ni du tribunal, ni de l'Assemblée. Bien qu'Aristote signale la fin manipulatrice de ces pratiques, il ne suggère pas que cette intention fût affichée publiquement. Il semblerait en effet qu'un tel affichage eût été incompatible avec le but recherché. Loustalot ne semble pourtant pas s'être soucié de ce problème. Et comme l'observe Jaurès à propos de ce texte de Loustalot, rien ne nous prouve mieux que cette sorte de rouerie candide et publiquement étalée, le désarroi d'esprit de la bourgeoisie révolutionnaire démocrate. Il voulait avoir le beurre et l'argent du beurre. La deuxième stratégie des constituants fut d'imposer des assemblées électorales intermédiaires entre les assemblées primaires et les députés. Le 29 octobre 1989, la constituante avait établi une contribution directe d'un marc d'argent comme critère d'éligibilité, critère qui n'aurait été satisfait que par une petite minorité des citoyens actifs. Par la suite, il y eut une vague de protestations qui aboutit en août 1991 à la création d'assemblées intermédiaires auxquelles n'était éligible qu'une faible minorité de propriétaires. Ainsi même, si la plus grande majorité des citoyens pouvait voter dans les élections à ces assemblées et pouvait également être élu député par elles, la probabilité de fait qu'un citoyen non propriétaire soit effectivement élu était faible. Par ce tour de passe-passe, on voulait réaliser en deux étapes ce qu'il aurait été trop voyant de faire en une seule. Et pour conclure maintenant au sujet du suffrage dans l'Assemblée française, Robespierre fit aussi observer la contradiction entre le mode d'élection à la constituante elle-même et le mode proposé pour les élections futures. Messieurs, je vous rappelle le titre de votre convocation, qui portait que, c'est-à-dire la convocation à l'Assemblée aux États généraux, qui portait que tout Français ou naturalisé français, payant une imposition quelconque, serait admis à concourir à la nomination des députés. Et je vous rappelle que ni loi n'a éloigné des assemblées un seul homme pour raison de fortune et de contribution. Je demande maintenant, c'est vous qui êtes arrivé ici sans titre et qui tenez vos pouvoirs de ces hommes-là, dont une grande partie n'atteignait pas la condition qu'on leur imposait, je vous demande si vous pouvez vous servir des pouvoirs qu'ils vous ont confiés et si vous pouvez leur dire, le jour où vous avez investi le pouvoir de défendre et de garder vos droits, ce jour-là, vous les avez perdus. Vous ne rentrerez plus dans cette assemblée où vous nous avez donné votre confiance. Nous n'avons point de garantie de votre indépendance et de votre probité. Nous-mêmes, nous ne sommes donc pas purs, puisqu'enfin, nous avons été choisis et nommés par les électeurs qui ne payaient plus. Comme on l'a vu aussi dans d'autres cas, par exemple à Francfort en 1848, il y a une tension certaine entre l'élection par suffrage quasi universel, masculin bien sûr, une assemblée constituante et l'inscription d'un sens dans la Constitution elle-même. Et comme le note de manière très perspicace Robespierre, un sens risquerait en effet de jeter un doute rétrospectif sur la légitimité des constituants eux-mêmes. En Amérique, par contre, les constituants résolurent le problème du suffrage en le reléguant aux États. C'est-à-dire, la Chambre des représentants sera composée de membres choisis tous les deux ans. Dans chaque État, les électeurs devront répondre aux conditions requises pour être électeurs à l'Assemblée la plus nombreuse de la législature de cet État. Et le Sénat des États-Unis seront choisis par la législature de chacun des États. Par le premier de ces articles, on contournait l'obstacle à la ratification qu'aurait constitué un sens fédéral, tout en s'assurant que les députés auraient les qualifications économiques requises pour l'élection aux chambres basses de leurs États respectifs. Et par le second article, on pourrait prévoir que les chambres hautes des États n'allaient pas élire des sénateurs qui n'avaient pas les qualifications économiques requises dans leur propre élection, lesquelles étaient normalement plus élevées que pour les chambres basses. Ainsi, l'on peut dire, en forçant un peu les choses, que les Américains ont achevé par des méthodes indirectes une représentation inégale qu'ils ont craint d'établir par la méthode directe d'un sens inscrit dans la Constitution. Et je passe maintenant à l'esclavage et aux contradictions évidentes entre cette institution et les deux déclarations. Constatons d'abord que, à la différence de l'exclusion du suffrage de personnes appartenant à certaines catégories économiques, celle des esclaves est définitive, du moins en ce sens qu'il n'y a rien que ceux-ci puissent faire pour s'affranchir. Ainsi, la défense suivante du sens, qui témoigne, je pense, d'une certaine mauvaise conscience, ne s'applique pas aux esclaves. En France, tous les hommes sont égaux en droit politique. Et quoique l'exercice du droit en dépende de quelques conditions, le droit en lui-même et l'aptitude à l'exercer n'en existent pas moins dans tous les citoyens, sans exception. Il n'y a pas de citoyen français que quelques années de travail et d'économie ne puissent rendre habile à remplir toutes les fonctions publiques, au lieu que, dans les pays où l'espèce humaine est classée, tout individu est condamné à rester dans la classe où le sort de la naissance l'a fait tomber. Pour qu'un droit soit universel et qu'en même temps son exercice efficace soit sujet à des conditions, il faut évidemment que ces conditions soient à la portée de tous. Et je commence par le rôle de l'esclavage dans la Convention fédérale et dans la Constitution américaine. Le mot d'esclave ne se trouve nulle part dans ce texte, bien que la réalité de la chose apparaisse dans 5 articles de la Constitution et entre dans l'arrière-fond d'au moins 10 autres. Parmi les euphémismes utilisés, on peut citer celui de l'article suivant. L'immigration ou l'importation de telles personnes que l'un quelconque des États actuellement existants jugera convenable d'admettre ne pourra être prohibé par le Congrès avant l'année 1808, mais un impôt ou un droit n'excédant pas 10 dollars par tête pourra être levé sur cette importation. Et le commentaire que fit le constituant Luther Martin devant l'Assemblée de Maryland est sur ce point tout à fait pertinent. L'objet, dit-il, voilà encore une troisième fois, les mots et les choses. L'objet de cet article est d'empêcher que le gouvernement fédéral puisse interdire l'importation d'esclaves, mais les mêmes raisons qui les avaient poussés à supprimer certains autres mots dans le texte les ont ici conduits à se garder d'utiliser le mot d'esclave. Ils ont soigneusement cherché à éviter l'usage d'expressions qui eussent été odieuses à l'oreille des Américains, alors pourtant qu'ils souhaitaient insérer dans leur système les choses mêmes que ces expressions désignaient. Et en conséquence, l'article est rédigé de telle sorte qu'il autorise en fait le gouvernement fédéral à prélever une taxe de 10 $ pour tout étranger pénétrant dans un État pour y résider, qu'il y entre comme homme absolument libre ou relativement tel comme domestique. Alors même que cela était tout à fait contraire au dessein des constituants, puisque la taxe n'était destinée qu'à s'appliquer aux esclaves. Autrement dit, les euphémismes sont dangereux, car ils risquent de vous faire dire plus que vous ne vouliez, de le vouliez. On affirme parfois que l'omission du mot « esclave » dans le texte de la Constitution américaine reflète la reconnaissance par les constituants de la nature odieuse de l'institution et leur espoir qu'il allait bientôt disparaître. Il est plus probable, à mon avis, qu'elle s'explique par la crainte que les États non esclavagistes ne refusent de ratifier la Constitution si elle acceptait de manière trop voyante l'existence de l'esclavage. Et considérons notamment les débats autour de l'article suivant de la Constitution. Les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents États qui pourront faire partie de cette union proportionnellement au nombre de leurs habitants, qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris celles qui se sont louées pour un nombre d'années déterminées, mais à l'exclusion des Indiens non soumis à l'impôt, 3/5 de toutes les autres personnes, c'est-à-dire des esclaves. Il s'agit donc, dans le texte de la Constitution, du schéma suivant. La totalité des Blancs plus 3/5 des esclaves déterminait à la fois les impôts directs et la représentation. Mais à la Convention, plusieurs députés exprimèrent leur opposition à l'inclusion des esclaves dans la base de la représentation, soit pour des raisons de principe, soit par un souci de la ratification. Dans cette dernière catégorie, Madison reporte l'objection du gouverneur Morris. Une autre de ses objections contre l'inclusion des Noirs dans le recensement était que le peuple de Pennsylvanie, il était délégué de cet État, aurait trouvé révoltant de se trouver mis sur un pied d'égalité avec les esclaves. Il aurait rejeté tout plan conduisant à une telle conséquence. Afin d'apaiser ce souci, James Wilson fit alors la proposition suivante. Mr. Wilson observa qu'on prendrait peut-être moins ombrage de l'admission des esclaves dans la base de la représentation si cette admission était présentée comme ne faisant qu'indirectement d'eux un ingrédient de cette base, en indiquant qu'il devait être pris en considération dans la base de l'impôt, car comme la représentation devait être calculée selon l'impôt, le résultat souhaité serait le même. Autrement dit, encore une fois, on voulait faire accepter en deux étapes une proposition qu'on craignait ne pas pouvoir faire passer en une seule. Puisque dans ce schéma, il n'y a pas de lien direct entre la représentation et les esclaves. En fin de compte, la Convention a préféré le premier système. Mais l'échange entre Morris et Wilson témoigne néanmoins de l'importance des apparences. Dans les débats sur l'esclavage et la traite, le conflit principal opposait le Nord et le Sud. Or, les États sudistes n'avaient pas tous les mêmes intérêts. La Géorgie et les deux Carolines avaient besoin d'importer des esclaves, alors que la Virginie et le Maryland avaient un surplus d'esclaves qu'ils auraient voulu pouvoir exporter vers le Sud profond. Et dans une intervention dont l'hypocrisie fut vite démasquée, George Mason de la Virginie, lui-même grand esclavagiste, se posant en critique de l'esclavage, tandis qu'en réalité, il ne s'opposa qu'à la traite, dont l'abolition profiterait à son État. Le pauvre, dit Mason, méprise le travail accompli par les esclaves. Ces derniers empêchent l'immigration des Blancs, qui enrichissent et renforcent une nation. Ils, c'est-à-dire les esclaves, produisent l'effet le plus pernicieux sur les mœurs. Chaque propriétaire d'esclaves est né petit tyran, dont il faut le penser, Mason lui-même. Il déplora que certains de nos frères de l'Est se soient engagés par appât de gain dans cet infâme trafic. Certes, les États disposent du droit d'importer, mais il doit être abandonné, comme ont dû l'être beaucoup d'autres droits. Il estimait essentiel à tout point de vue que le gouvernement fédéral dispose du pouvoir d'empêcher l'accroissement de l'esclavage. Avec un sarcasme à peine voilé, Oliver Ellsworth du Connecticut observa que puisque lui-même n'avait jamais possédé d'esclaves, il ne pouvait évaluer les effets de l'esclavage sur le caractère. D'ailleurs, dit-il, si les effets étaient si pernicieux, seule l'abolition de l'esclavage pourrait les éteindre. Étant donné l'impossibilité manifeste d'une telle politique, l'abolition de la traite serait une injustice envers le Sud profond, au profit de la Virginie et du Maryland. Et je voudrais maintenant explorer une question plus délicate, celle de l'impartialité au service de la partialité, et inversement, de raisonnements partiaux au service des valeurs impartiales. Comme j'en ai parlé assez longuement dans mon cours sur la Convention fédérale de l'année dernière, je me limiterai ici à un exposé assez bref. Quand la Convention débattit des conditions d'accès à l'Union pour les États futurs qui seraient créés à l'Ouest, deux positions extrêmes s'affrontèrent, exprimées dans les deux interventions suivantes. D'abord, George Mason, de fortes objections avaient été tirées du danger que ferait peser le nouveau État de l'Ouest sur les intérêts des États de la côte atlantique. Devrions-nous sacrifier ce que nous savons être juste en soi par peur que cela ne se révèle favorable à des États qui n'existent pas encore? Si les États de l'Ouest sont destinés à être admis dans l'Union dès leur naissance, ils doivent, répétait-il, être traités comme des égaux et ne pas être l'objet de discriminations avilissantes. De l'autre côté, écoutons le gouverneur Morris. Les observations de M. Mason sur l'ouest du pays ne l'avaient pas fait changer d'avis sur le sujet. Entre autres objections, il doit être admis qu'il ne serait pas capable de fournir des hommes pareillement éclairés de partager nos intérêts communs dans l'administration. C'est la fréquentation assidue des hommes qui est la véritable école du talent politique et non les déserts éloignés de tout. Si les peuples de l'Ouest s'emparent du pouvoir, ils ruineront les intérêts de la côte atlantique. Les membres isolés sont toujours très réticents en meilleure mesure. Il mentionna l'exemple de la Pennsylvanie quelque temps plus tôt. La partie la plus sud de l'État s'était d'abord emparée du pouvoir et ils l'avaient gardé entre leurs mains et le pays s'en était bien mieux porté ainsi. Morris appuya donc une motion de Elspeth Gerry qui proposa de limiter le nombre de nouveaux États admissibles dans l'Union, de façon à ce qu'ils ne puissent jamais dépasser en nombre les États atlantiques. Le désaccord entre les deux positions était réel, mais les raisons invoquées ne l'étaient pas. Les députés des deux côtés partaient de deux prémisses factuelles communes et de fins opposées. Première prémisse, ils étaient tous convaincus, mais à tort, que la population allait augmenter plus rapidement dans le sud-ouest que dans le nord-ouest. Deuxième prémisse, ils partageaient la certitude, sur ce point ils avaient raison, que l'esclavage serait permis dans le sud-ouest, mais non pas dans le nord-ouest. En ce qui concerne leur fin, les députés du sud cherchaient à préserver l'esclavage pour l'éternité, tandis que les députés du nord, et notamment le gouverneur Morris, voulaient se procurer les moyens de le limiter et un jour de l'abolir. Afin d'avoir gain de cause, les premiers firent appel à un principe impartial apparemment impeccable, selon lequel les nouveaux États devaient être admis sur un pied d'égalité. Étant donné les deux prémisses factuelles, ce principe donnerait un poids accru à la représentation des États esclavagistes dans la Chambre des représentants. De son côté, gouverneur Morris ne pouvait pas avouer expressément que sa proposition avait pour but de limiter cette représentation dans les congrès futurs et de permettre un jour l'abolition de l'esclavage sur tout le territoire de l'Union. Il déguisa donc l'opposition nord-sud en une opposition est-ouest, en prétendant qu'il cherchait à limiter l'influence des citoyens incultes de la frontière plutôt que celle des esclavagistes. Ce faisant, il cherchait en réalité à promouvoir la cause de l'égalité des races en faisant semblant de discriminer contre l'Ouest. La stratégie était sans doute trop transparente. Il n'obtint qu'une demi-victoire en faisant éliminer du texte toute référence au terme d'accès des nouveaux États. Et je passe maintenant, pour conclure sur ce sujet, au rôle de l'esclavage dans la Constituante française. Cette question y a pris une forme beaucoup plus opaque qu'à Philadelphie. Il y avait au moins 6 problèmes qui s'enchevêtraient: l'autonomie des colonies, les intérêts des planteurs, les intérêts des commerçants de la traite, les intérêts des autres commerçants, les statuts des hommes de couleur, des descendants mixtes libres et enfin l'esclavage. Puisque dans ma présentation d'aujourd'hui, la question de l'esclavage en France ne constitue qu'un sujet parmi 4, je n'aurai pas le temps de vous expliquer les rapports très complexes entre ces divers aspects. Je me limiterai aux paroles et aux écrits des constituants, sans tenir compte des activités très nombreuses, des très nombreuses groupes de pression qui cherchaient, souvent avec succès, à influer sur les travaux de l'Assemblée, et notamment à l'empêcher de soulever certaines questions à la fois brûlantes et gênantes. C'est ainsi que la Constituante ne débattit jamais ni de la traite, ni des subventions que l'État lui accordait, ni de l'institution de l'esclavage elle-même. Je ferai pourtant une exception au principe de ne citer que le Constituant en vous présentant un texte chaud de l'eau de Laclos, dans lequel, avec la lucidité qu'on lui connaît, il explique que l'esclavage étant un mal nécessaire, on ne devait ni ouvertement le critiquer, ni ouvertement le défendre. Voilà son raisonnement. Notre Constitution a deux sortes d'ennemis en France. Les uns veulent la démocratie et point de roi, les autres veulent un roi et point de démocratie. Il a une troisième sorte d'ennemi en Amérique, c'est le parti, c'est-à-dire à Saint-Domingue, c'est le parti de la démocratie blanche. Ces trois partis, également intéressés à voir crouler la Constitution, harcèlent l'Assemblée nationale pour la forcer à se contredire elle-même, soit en prononçant un décret qui légaliserait la distinction qu'un préjugé barbare a mise jusqu'à ce jour dans nos colonies, entre les blancs et les hommes de couleur, tant libres qu'esclaves, soit en prononçant un décret dirigé textuellement contre cette distinction. Dans le premier cas, l'Assemblée nationale déshonorerait tous ses travaux et se couvrirait de honte. Dans le second, elle décréterait implicitement l'abolition de l'esclavage, les colonies se sépareraient de la métropole, nos ports se souleveraient contre l'Assemblée et 4 millions d'individus qui travaillent en France pour les colonies se trouveraient sans occupation et sans pain. De ces deux conséquences, qui sont les seules admissibles, découle une vérité terrible et incontestable, c'est que la France tomberait dans une anarchie complète. Le lecteur de bonne foi reconnaîtra ici la justesse de cet adage qui dit que les extrêmes se touchent. Pour exposer certaines idées des deux constituantes sur le sujet de la Constituante française, sur le sujet de l'esclavage et des hommes de couleur libre, je vais d'abord faire un retour à la Convention fédérale. J'ai fait remarquer tout à l'heure que plusieurs députés y exprimèrent leur opposition à l'inclusion des esclaves dans la base de la représentation, soit pour des raisons de principe, soit par un souci de la ratification. Et dans l'intervention du gouverneur Maurice, que je vous ai cité, celui-ci mettait l'accent sur cette dernière objection. Et je voudrais maintenant vous présenter l'objection de principe que fit William Paterson. Quel est, se demandait-il, le vrai principe de la représentation? C'est un expédient par lequel une assemblée de certains individus, choisis par le peuple, est substituée à l'impraticable réunion du peuple lui-même. Mais si une telle réunion du peuple était effectivement réalisée, les esclaves voteraient-ils? Non. Pourquoi dès lors devraient-ils être représentés? Le sujet de ce débat à Philadelphie était la représentation dans les assemblées législatives futures. On eut un débat semblable à la Constituante française lors de la vérification des pouvoirs des députés au début du mois de juillet. Une députation de Saint-Domingue se présenta alors à l'Assemblée exigeant 20 députés pour la colonie. Parmi les réactions critiques à cette demande, on peut citer l'intervention de Mirabeau le 3 juillet et surtout le discours qu'imprima Mirabeau dans son journal de Gara le Jeune. Ce dernier fit d'abord observer que l'argument des colons, selon lequel la richesse des colonies justifierait une représentation importante, était contraire au principe choisi pour déterminer le nombre de délégués des bailliages dans la métropole, à savoir la taille de la population. Et sur ce dernier critère, il dit, je conclus donc, messieurs, que pour déterminer dans quel nombre nous devons admettre le député de Saint-Domingue, il faut considérer quelle est la population de cette colonie. Il est de trois espèces, de 35 ou 36 000 blancs, de 6 ou 7 000 hommes de couleur, mais libres, à peu près de 340 000 esclaves noirs. Je l'avoue, messieurs, je n'ai pas été peu surpris lorsque j'ai appris d'un côté que les colons de Saint-Domingue n'ont pas mis les hommes de couleur libres aux élections, et de l'autre, qu'ils se fondent en partie sur la population pour faire admettre un plus grand nombre de députés. C'est-à-dire qu'on a commencé par violer leurs droits et que ceux-là même qui les ont violés veulent s'en servir ensuite pour étendre les leurs. Vous connaissez peut-être l'idée yiddish du chutzpah, illustrée par l'homme qui, accusé d'avoir tué ses parents, cita comme circonstance atténuante le fait qu'il était orphelin. Et selon Gara, c'est un peu ce que firent les colons de Saint-Domingue. Je saute maintenant un an pour arriver au 28 mars 1990, jour où l'Assemblée adopta des instructions pour les colonies, dont la suivante. Article 4. Immédiatement après la proclamation et l'affiche du décret de l'Assemblée nationale et de l'instruction dans chaque paroisse, toutes les personnes âgées de 25 ans accomplies, propriétaires d'immeubles ou à défaut d'une telle propriété, domiciliées dans la paroisse depuis 2 ans et payant une contribution, se réuniront pour former l'Assemblée paroissiale. Encore une fois, j'insiste sur le mot « toutes les personnes ». Dans le sens littéral du texte, il autorise les très nombreux hommes de couleur libre et propriétaires ou contributeurs à faire partie de cette assemblée. Bien que certains constituants aient exprimé le vœu que cette implication du texte soit rendue explicite, ils ne furent pas suivis. Et quand Bernard, auteur de cette instruction, eut à les défendre un an plus tard, il le fit dans les termes suivants. Nous avons constamment répondu, encore une fois, les mots et les choses, répondu à ceux qui nous consultaient, que les termes généraux de l'article 4 ne présentaient aucun préjugé contre les hommes de couleur, mais que nous ne croyions pas devoir les désigner nominativement, et en même temps, nous nous sommes constamment refusés à ajouter à l'article ces mots sans exception de couleur. C'était la demande des députés dont je viens de parler. La rédaction de l'article ne renferme évidemment aucune exclusion, mais si vous voulez en demander davantage, vous porterez le trouble dans les colonies. De même, si on avait tiré des deux prémices, tout homme est mortel et César est un homme, la conclusion que César est mortel, on aurait sans doute porté le trouble à Rome. Et comme un dernier exemple, vraiment à mon avis extraordinaire, de cette magie verbale, je vais reprendre une intervention de Robespierre dans le même débat, intervention que j'ai citée dans la première séance du séminaire. Quand le constituant Moreau de Saint-Méry proposa un amendement qui remplacerait, dans la motion proposée, les mots « personne non libre » par le mot « esclave », Robespierre s'indigna dans le terme suivant. Le plus grand intérêt dans cette discussion est de rendre un décret qui n'attaque pas d'une manière trop révoltante et les principes et l'honneur de l'Assemblée. Dès le moment où, dans un nouveau décret, vous aurez prononcé le mot « esclave », vous aurez prononcé votre propre déshonneur. Je me plains au nom de l'Assemblée elle-même de ce que, non contenu d'obtenir d'elle ce qu'on désire, vous la forcez à l'accorder d'une manière déshonorante pour elle et qui demande tous ses principes. Lorsqu'on voulait vous forcer à lever vous-même le voile sacré et terrible que la pudeur même du législateur était forcée de jeter, je crois que l'on aurait voulu se ménager un moyen pour attaquer toujours avec succès vos décrets, pour affaiblir vos principes, afin qu'on puisse toujours vous dire, vous alléguez sans cesse les droits de l'homme et le principe de la liberté, et vous avez si peu cru vous-même que vous avez décrété constamment l'esclavage. C'est un grand intérêt que la conservation de vos colonies, mais cet intérêt même est relatif à votre constitution. Et l'intérêt suprême de la nation et des colonies elles-mêmes est que vous conserviez votre liberté et que vous ne renversiez pas de vos propres mains les bases de cette liberté. Et périssent vos colonies si vous les conservez à ce prix. Oui, s'il fallait, ou perdre vos colonies, ou perdre votre bonheur, votre gloire, votre liberté, je répéterai, périssent vos colonies. À la suite de ce discours, Moreau de Saint-Méry répondit ainsi. Il ne s'agit pas de se battre sur les mots. Persuadé que les choses sont bien entendues, qu'elles le sont, comme je le sentends moi-même, je retire l'amendement du mot esclave. Dans le même débat, Dupont de Nemours dit que s'il fallait sacrifier l'intérêt ou la justice, il vaudrait mieux sacrifier les colonies qu'un principe. Robespierre, quant à lui, affirma qu'il vaudrait mieux sacrifier les colonies que de nommer un chat un chat. Et je conclue sur une question que je voudrais poser à Bernard Manin et à propos de ces textes que je viens de citer. Comme Manin l'a démontré dans des travaux importants, malheureusement inédits, quand les députés de la Convention ont proposé, par exemple, de bannir l'émigration du pays, ils ont invoqué l'idée de Montesquieu, selon laquelle il faut parfois mettre pour un moment un voile sur la liberté. Et la justification, selon eux, se trouvait dans le salut public. Ces deux éléments, le voile et le salut public, nous les retrouvons aussi dans les débats sur l'esclavage. Nous venons de voir que Robespierre parle de la nécessité de jeter un voile sur l'égalité. Et dans le même débat, le perfide Abbé Maury s'amuse à démasquer l'hypocrisie de ses adversaires. J'ai remarqué que de part et d'autre, les orateurs se trouvent dans un très grand embarras, qu'ils doivent à eux-mêmes, parce qu'ils se sont secrètement promis de ne pas dire tout ce qu'ils pensent. Je vais lever le voile. Je vais traiter cette question avec toute la candeur de l'impartialité. Et en ce qui concerne le second élément, le salut public, il est explicitement cité dans la défense que fit Barnard du rapport du 8 mars 90. Messieurs, le troisième objet, il essaie de refuter un certain nombre d'objections, concerne les alarmes qui se sont élevées sur l'application de quelques décrets. Vous ne pouvez parler ici qu'un langage, c'est celui de la vérité, qui consiste à désavouer la fausse extension qu'on leur a donnée. Vous n'avez pu rien changer dans tout ce qui concerne les colonies, puisque les lois que vous avez décrétées ne les ont pas eues pour objet. Vous n'avez pu rien changer puisque le salut public et l'humanité même offraient des obstacles insurmontables à ce que vos cœurs vous eussent inspiré. Dites-le donc en ce moment, puisqu'il s'est élevé des incertitudes, vous n'avez rien innové, cette déclaration suffit et ne peut laisser subsister aucune alarme. Donc la question sur laquelle je conclue, que je pose à Bernard Manin, faut-il donc penser que pour le voile sur la liberté et le voile sur l'égalité, et pour l'appel au salut public censé justifier les deux, il s'agit de la même moule de pensée. Merci.
Dernière question, je la laisserai pour la fin. Et je voudrais en revanche revenir sur et lancer une discussion, une réflexion sur la dichotomie entre les principes et la pratique, qui est ce qui organise ces réflexions. D'ailleurs, qui amène beaucoup de choses. Ce sont des filets qui produisent une bonne prise, mais il faut peut-être s'interroger sur cette distinction et plus exactement encore sur l'applicabilité de cette distinction aux deux questions considérées, c'est-à-dire à celle du droit de suffrage d'une part et à l'esclavage de l'autre. Pour dire d'emblée, la question que je voudrais poser, la question centrale, il y en a quelques autres, la question centrale est de savoir si la dichotomie entre les principes et la pratique s'applique également à ces deux questions. Et il me semble qu'il y a des raisons de supposer que non. Ce que j'entends, c'est un peu abstrait à ce point, mais je vais l'illustrer immédiatement. Dans le cas du suffrage restreint, il y a, me semble-t-il, des raisons de penser qu'un certain nombre de constituants, tant à Philadelphie qu'à Paris, était tout à fait persuadé qu'un des principes devait être un suffrage limité ou réservant le droit de vote à des catégories plus éclairées, mieux éduquées et... on peut avoir plusieurs variations sur cette partie, mais c'était, il me semble que, Madison entre eux, me semble-t-il, à l'évidence dans cette catégorie, ça n'est une, sa croyance dans le fait qu'il est préféré, il serait préférable de réserver la garde de la liberté, pour reprendre le terme machiavélien, aux propriétaires fonciers. Il y aura encore des discussions subsidiaires sur la nature de la propriété, discussions subsidiaires qui ont joué un rôle important aux États-Unis, moins en France, mais certainement aux États-Unis, entre la propriété foncière et la propriété mobilière. Mais, quoi qu'il en soit, le fait que le suffrage doive être réservé, ou en tout cas doive accorder un poids supérieur aux catégories propriétaires, pour une série de gens, me paraît relever, ou en tout cas on pourrait penser qu'il relève d'un véritable principe. Et donc, non pas du coup... La configuration dans le cas de l'esclavage serait la suivante. C'est une question, bien sûr. On pourrait poser la question de savoir si dans le cas de l'esclavage, la configuration n'est pas celle d'un conflit de principes, c'est-à-dire l'un étant le principe d'égalité, l'autre, appelons-le, le principe de la compétence, qui est ensuite résolu comme on peut. Mais et on va y revenir, ce qui serait une première configuration. En revanche, je suis plus prudent sur la seconde. Je suis prudent, évidemment, c'est pour la première question. Je le suis encore plus sur la seconde, car je connais moins la littérature et les écrits sur la question de l'esclavage que je ne connais ceux sur le droit du suffrage. Je n'ai pas eu le temps de me livrer à des recherches détaillées sur les écrits du droit sur l'esclavage. Mais il me semble, pour ce que j'en connais, que dans le cas de l'esclavage, personne... ou en tout cas un tout petit nombre, un nombre infime de personnes ne défendent la conformité au principe de l'esclavage. On trouve tout au plus la croyance que tu indiquais, à savoir que l'abolition de l'esclavage ou l'abolition de la traite entraînerait des conséquences indésirables dans la pratique. Mais il n'y a pas, ou on pourrait se demander s'il y a dans le cas de l'esclavage quelque chose d'équivalent à l'adhésion convaincue et raisonnée d'ailleurs au principe que le droit de suffrage doit être réservé aux catégories propriétaires. Donc voilà, ça c'est le chef général que doit au moins soulever cette question. Alors, quelques éléments qui donnent à penser que pour les Français, probablement les États-Unis, je citais tout à l'heure Madison, mais le fait de réserver le droit de suffrage à des propriétaires ou à des personnes indépendantes, comme le souligne avec très grande justesse Bentham dans la citation que tu donnes, est un lieu commun. Mais un lieu commun doit s'entendre de plusieurs manières. C'est-à-dire, c'est à la fois péjoratif, bien entendu, c'est une platitude dans les yeux au regard de Bentham, mais c'est aussi une thèse extraordinairement répandue. L'Angleterre du XVIIIe siècle et les écrits politiques reprennent cette idée que la garantie de l'indépendance des individus, c'est la propriété, et plus précisément encore la propriété foncière, par opposition à la propriété mobilière des spéculateurs qui sont, eux, liés à la... en gros, des ministères corrompus, ou qui les corrompent par toute une série de moyens, à la fois par le système des places et aussi par le crédit, la détention de titres publics. Sans entrer dans trop de détails ici, il me semble que le lien privilégié entre la propriété foncière et l'indépendance, c'est ça le point, l'indépendance ou la suffisance à soi ne constitue pas simplement un prétexte. En tout cas, on en trouverait des exemples chez des gens qui ne participent pas au débat que tu mentionnes. Et il y a un exemple que j'utiliserai ici, non pas pour la rigueur de ces raisonnements, mais juste comme un objet. Et un exemple de ça, c'est Kant. Kant défend, sur des raisons de principe, la distinction entre les citoyens actifs et les citoyens passifs, et il y revient même deux fois, à la fois d'ailleurs de manière comment on pourrait dire, peut-être ironique sur, dans le traité, enfin dans l'écrit, il se peut que cela soit juste en théorie, mais cela ne vaut rien en pratique, et de notre côté dans la doctrine du droit. Et il élabore, à la vérité, bon, j'ai là quelques références, on pourrait y revenir, mais c'est, ici, ce qui m'intéresse, c'est simplement Kant comme, comme preuve de ce que la thèse de principe que le suffrage devait être réservé à ceux qui pouvaient manifester, manifester une indépendance de volonté par leur profession, ceci donne un certain poids à l'idée que c'était, ça n'était pas le seul principe, n'était pas celui de l'égalité. Et Kant prend de grandes peines pour tracer la distinction, d'ailleurs, entre les différents types de professions. C'est-à-dire les domestiques n'ont pas de volonté propre, de même que les personnes, les perruquiers qui sont employés, qui font partie de la maison, au lieu que les artisans. Non, mais il y a quand même, on ne va pas entrer dans les débats, mais le point de le citer ou de le mentionner est d'illustrer l'élément d'argumentation de principe. En revanche, fait-il valoir, le maréchal Ferrand qui se déplace ou le coiffeur qui tient échoppe dans la rue sont des individus indépendants. Ils ne font pas partie de la maison, ils ne font pas partie de l'estime. Bon, voilà. Ça peut paraître des curiosités, mais il me semble que ça va plutôt dans le sens d'une confrontation de principes. On pouvait aussi défendre l'idée sur les principes. Et alors, là, si on poursuit ton schéma, la conséquence, le silence aurait, ou la dissimulation aurait une autre fonction. C'est-à-dire, si on avait une configuration dans laquelle il y a deux principes, celui de réserver le suffrage aux catégories propriétaires étant explicitement cru et même raisonné, on pourrait dire alors simplement qu'il s'agit de le dissimuler pour des raisons de... parce qu'il est difficilement acceptable par ceux auxquels il est destiné. Mais ça ne l'empêchera pas pour autant d'être un principe normativement valide, mais simplement il peut être difficile d'en persuader de grandes populations. Bon, voilà la dissimulation, en d'autres termes, aurait une finalité d'acceptation par des populations qui ne seraient pas disposées à accepter le principe vrai et fondé en raison, mais que le suffrage doit être réservé à ceux qui disposent d'une propriété. Bon, voilà une deuxième chose très brève. Je ne suis pas sûr. Il me semble que ça, c'est plutôt une question d'argumentation. Dans le cas de la citation de Bentham ou de l'idée que le suffrage secret résout le problème de la dépendance, ça porte quand même sur la question de la dépendance. On pourrait observer que ça résout le problème de la dépendance dans la vision du monde de Bentham, c'est-à-dire une vision du monde dans laquelle les comportements des individus sont essentiellement déterminés par les sanctions, ou en tout cas les pertes et les gains qu'ils peuvent escompter de leurs propres actions. Mais si on fait intervenir une autre conception des comportements, par laquelle les comportements sont influencés par les valeurs intériorisées dans des interactions entre les individus, des valeurs ou des dispositions, la déférence d'un domestique à l'égard du maître de maison n'est pas très plausiblement, ni en tout cas pas évidemment, une affaire de sanctions et de gains. Simplement, l'habitude de l'obéissance et l'habitude de la déférence peut entraîner les mêmes effets de dépendance qui, eux, ne seraient pas contrecarrés par le scrutin secret. Bon, c'est une remarque, une remarque un peu adjacente, mais quand même, peut-être. Alors, une troisième remarque concernant le suffrage, le droit de suffrage en France. Malgré tout, bon, c'est un petit codicille. Il me semble qu'on ne peut pas tout à fait passé sous silence le fait que le droit de suffrage dans la première loi électorale était un droit de suffrage assez large. Voilà. C'était trois journées de travail, c'était un suffrage large, en particulier comparé à ce qui se faisait en Angleterre. Et du coup, il n'y avait pas exactement d'hypocrisie sur cette partie-là. Le Marc d'Argent, lui, relevait plus d'une hypocrisie. Je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, puisque dans mon premier page, peut-être je mettrai en question l'idée que c'était simplement une concession à la pratique, le Marc d'Argent. Bon, c'est le premier point. C'est peut-être une question de principe aussi. Mais là aussi, la question est de le faire accepter. La question est de faire accepter à la population cet autre principe de l'élection des compétents ou de l'élection des indépendants. Et je ne vais pas répéter l'idée. Je ne suis pas sûr que ceci doive être seulement compté comme un prétexte. On pourrait y revenir parce que, à la fois par la diffusion de cette croyance, par le fait que dans les exemples d'histoire romaine dont ces gens sont entièrement nourris, le fait que la plèbe serve de citer César, mais justement, c'est que la plèbe est l'instrument des démagogues et des démagogues qui abolissent la République. Alors, c'est certainement une crainte qui joue un rôle des deux côtés de l'Atlantique. Donc la peur, Jaurès d'ailleurs en parlant du peuple prolétaire qui pourrait compromettre la liberté, va dans ce sens. La translation cachée du marc d'argent dans le système de l'élection à 2 degrés est perçue, c'est-à-dire il y a des orateurs qui le dénoncent explicitement, mais si le principe est celui auquel on croit, bon, le fait de le cacher est prend une signification différente. Et enfin, dernier élément, le voile. Alors là, les choses, à mon avis, ma réponse est plutôt non. Et voici pourquoi. Parce qu'au moins dans le texte de Robespierre, à la vérité, d'ailleurs, ce texte de Robespierre m'avait frappé dès la première fois que tu l'as cité au début de ce séminaire. Mais dans le texte, dans la position de Robespierre, l'hypocrisie, c'est ça ? Est-ce que tu as
non, ça, c'est Bentham.
Ah, okay. Est-ce que tu peux avoir celui de Robespierre ? Ouais. Ce qu'il s'agit de voiler, ce dont Robespierre...
Voilà.
Le voile que Robespierre défend, ce voile sacré et terrible, c'est le voile qui consiste à ne pas prononcer le mot d'esclavage. Donc, c'est ce qu'on voile, c'est la violation du principe de l'égalité. On la cache, on la rit, mais c'est la violation et non pas l'égalité. Au lieu que, dans la constellation rhétorique que j'avais étudiée, dans laquelle on a, dans les circonstances de salut public, une justification à jeter un voile sur la liberté, comme les peuples qui ont été les plus libres sur la terre, la construction est différente. Ce qu'on voile, c'est la valeur à laquelle on renonce. Ici, ce que l'on voile, c'est la violation de la valeur. Et donc, dans le cas de l'expérience des peuples qui aient été les plus libres sur la terre, me donne à penser que la formule de Montesquieu que qu'un certain nombre de constituants reprennent de façon répétée, je voudrais peut-être être un peu plus clair parce qu'on ne peut pas savoir ce dont il s'agit, dans les débats de la constituante, très rapidement, depuis les débats sur l'immigration de février 91, on trouve un certain nombre d'orateurs qui, à l'appui de l'interdiction de l'immigration, utilisent la formule de Montesquieu selon laquelle il y a des moments dans lesquels il est justifié de jeter un voile sur la liberté et du coup de suspendre un certain nombre de droits. Cette métaphore est extraordinairement productive et influente pendant tout le cours de la Révolution, mais à chaque fois, le voile ici désigne le fait de suspendre une garantie ou quelque chose auquel on croit par ailleurs. Et il me semble que dans le cas de Robespierre, le voile, enfin, ce qui est dissimulé, c'est la violation. Et donc, il me semble que ces deux constellations sémantiques sont différentes. Mais voilà.
Sur le dernier point, je suis entièrement d'accord en ce qui concerne le voile, mais qu'est-ce que tu penses du salut public ?
Alors, le salut public, alors ça, c'est pas Robespierre, ça. C'est, non, c'est Barnard. Voilà. Mais le salut public, ici, le salut public justifie que l'on ne parle pas d'esclavage, n'est-ce pas ? Le salut public justifie que... puisque le salut public et l'humanité même offrent des obstacles insurmontables à ce que je... oui, alors d'accord, ici non, dans la citation de Barnard, c'est un peu... je crois que c'était celle de... oui, voilà, c'est le salut public et l'humanité offraient comme des obstacles à ce que vos cœurs eussent inspiré. C'est-à-dire, le salut public s'opposait à ce que l'on abolit l'esclavage. Mm-hmm. Ah, c'est ça la forme, ce que signifie, puis l'humanité vous aurait dicté, pour une fois. Le salut public s'opposait à ce que l'on abolit l'esclavage, oui. C'est-à-dire le statut public, le salut public, sert à justifier des mesures que les principes ou les principes normatifs appelleraient. Oui, ça en effet, ça me paraît relever de ça. Mais il n'y a plus de dissimulation quand même.
Non.
Là, l'élément de dissimulation a disparu.
Sauf que dans d'autres textes, Barnard, dans le texte où il dit qu'il ne faut pas, tirer l'implication de tout, qu'il s'agit vraiment de tout.
On ne dit pas sans exception de couleur, il faut juste... Oui, mais alors là, je suis d'accord, mais là on retourne, c'est deux choses.
C'est la
constellation Robespierre. On ne va pas en parler. Ici, il n'y a pas de question d'en parler ou pas. C'est le salut public, c'est-à-dire au fond, la survie de la Révolution implique que vous n'abolissiez pas l'esclavage. C'est ça que ça dit ici. Et ça c'est la même rhétorique générale. Le bien public où le salut public permet de passer outre à des mesures que les principes appelleraient.
Mais c'est assez tôt, c'est le 8 mars 90.
C'est vrai, je me suis concentré sur le voile parce que tu avais mentionné Robespierre. Oui, mais cette idée du salut public intervient très tôt, bien sûr. Et c'est vrai que c'est encore en avant par rapport au débat sur l'immigration. C'est vraiment le bien. C'est les motifs d'ordre, comment appelle-t-on ça, l'intérêt général, des raisons d'ordre général, simplement un peu exacerbées et un peu exaltées avec la forme du salut public.
Bon, je vais essayer de répondre à tes autres questions ou observations. Oui, il est clair que chez Madison, surtout, le suffrage limité était un principe. Et il est clair aussi que la distinction grossière que j'ai faite entre l'intérêt des démunis et l'intérêt des nantis serait niée par Madison, puisqu'il pense que c'est dans la protection de la propriété, et par exemple aussi, c'était une question brûlante, de la protection des dettes, le respect des dettes, était important non seulement pour le créancier, mais pour le débiteur, puisque sans certitude que les dettes seraient remboursées, personne ne prêterait. Donc c'est dans l'intérêt des deux, des démunis et des nantis, que les propriétés soient sacrées, comme on disait à l'époque. Donc mais ça, c'était sûrement l'idée de Madison. On le sait très bien parce que c'est écrit dans la Convention. Et grosso modo, il avait raison. Il est dans l'intérêt de tous que les intérêts des propriétaires soient respectés, même l'intérêt des non-propriétaires. Mais c'est un argument qui, même tout en étant vrai, sonne un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Oui, vous devez respecter mes intérêts puisque c'est dans votre intérêt aussi. Alors, les puissants, les riches ont dit ça depuis le début de temps. C'est une chose difficile à faire passer. Il disait... Donc, il y avait les deux arguments qu'on trouve, surtout à Philadelphie. D'une part, donnant le vote aux non-propriétaires serait, en effet, de le donner aux riches. Donc, on crée une oligarchie. Et d'autre part, donnant le vote aux non-propriétaires, ce serait de les encourager à agir dans leur propre intérêt. Donc, c'est deux arguments un peu contradictoires. Et d'ailleurs, même si ton observation sur la déférence et les valeurs intériorisées sont correctes jusqu'à un certain point, si c'était vraiment le cas, il n'avait pas besoin de craindre que les pauvres se coaliseraient contre les riches, puisqu'ils auraient intériorisé les valeurs des riches. Donc, c'est un peu...
Le fait qu'on joue sur...
Oui, ouais, c'est... Bon, on, mais non, mais c'est si ce que je voulais dire, c'est que alors bon, premièrement, je crains même en dépit de mon intention affichée de ne pas faire du moralisme, d'en avoir fait un peu, mais c'était pas vraiment mon intention. C'était simplement voulu démêler comment les constituants dans les assemblées les stratégies auxquelles ils ont fait appel pour résoudre ce qui est quand même des contradictions apparentes. Mm-hmm. Et si vraiment la crainte de la dépendance était réelle, mais on ne parle pas de valeur intériorisée dans les assemblées. On parle de l'achat. Mm-hmm. On parle de l'achat et sans doute aussi des menaces. Mais donc, et si la crainte de pression matérielle dans la forme de punition ou de récompense, si cette crainte avait été réelle, il y avait un moyen tout fait pour y faire face. Donc, mais personne, ni dans l'une ni dans l'autre assemblée, ne mentionne cette solution qui pour Bentham, était l'évidence même. Donc c'est quand même un silence peut-être intéressant, je ne sais pas. Cette histoire de foncière, de propriété foncière et mobilière, c'est... La propriété foncière avait aussi la qualité qu'on ne pouvait pas s'emporter. On ne pouvait pas l'emporter avec soi et quitter le pays. C'était tandis que la propriété immobilière, c'était une propriété sans patrie. Donc, on ne pouvait jamais se fier aux propriétaires immobiliers puisqu'il n'avait pas cet attachement physique au pays que s'en suivait du fait qu'on ne peut pas emporter avec soi à l'étranger une ferme ou une terre. Et c'était peut-être l'argument le plus important, à mon avis, que la propriété foncière crée ce lien, un intérêt intime dans la prospérité de son propre pays. Donc c'était un peu... Bon, c'est comme...
J'ai une question, une vraie question. Mais est-ce que tu as trouvé quelque part dans tes lectures des défenses argumentées de l'esclavage?
Il n'y a que seul Charles Pinckney à la Convention fédérale de la Caroline du Sud qui dit, grosso modo, que l'esclavage est un fait de tout le temps. Si nous, si nous sommes, c'est contre la morale, c'est donc toutes les sociétés ont agi contre la morale.
C'est même pas une défense.
Mais il dit donc, ça ne m'intéresse pas. Non, je n'ai pas vu de raisonnement de défense raisonnée de l'esclavage. Aux États-Unis, ça est venu beaucoup plus tard, 50 années plus tard, dans les années 1830-1840. Alors là, on rencontre des défenses raisonnées de l'esclavage comme étant, bien sûr, dans l'intérêt des esclaves eux-mêmes. Mais à Philadelphie, non. Il faut aussi se rappeler qu'en 87, c'était avant l'invention du, qu'est-ce qu'on dit en français, du cotton gin, la production, la machine plus efficace pour travailler le coton, mm-hmm. qui a rendu l'esclavage 10 fois plus rentable. C'était mm-hmm. C'était une digression.
Mais à ce moment-là, on trouve des défenses de principe de l'esclavage.
Dans les 1830-40, au début de ça, oui. Oui, très, très, surtout le livre de George Fitzhugh, Cannibals All, qui est un... D'accord. Mais c'était... Ah oui, c'était avant la guerre de sécession, c'était...
Oui, avant la guerre de sécession, je l'aurais pensé.
Décennies avant.
D'accord.
En ce qui concerne le suffrage en France, moi je trouve à la fois le texte de Loustalot et le commentaire qu'en fait Jaurès très intéressant, puisque je pense que Jaurès met le doigt sur la confusion mentale de ces gens-là. Qu'ils voulaient, bien sûr, il était pour le peuple, mais le peuple était dangereux, qu'est-ce qu'ils voulaient, ils ne savaient pas. Donc il fallait faire de sorte que il faudrait leur donner le droit, mais aussi les empêcher de s'en servir. Mais de dire ça publiquement, c'est témoigner aussi d'une sorte de je ne sais pas quoi, mais sûrement de... Qu'est-ce qu'il dit, Jaurès, rouerie, quelque chose.
Oui.
Bon. Mais... Non, mais il semble quand même que le système des élections des assemblées intermédiaires est intéressant, puisqu'il permettait de dire correctement, oui, tout le monde peut voter, ou presque, tout le monde peut être élu, ou presque.
Et c'est, oui, pas exactement quand même, hein, parce que dans ces élections aux assemblées intermédiaires, justement, la mesure de la révision consiste à augmenter le sens d'éligibilité. C'est-à-dire qu'il y a un double système, mais le système était déjà d'élection indirecte en 89. Simplement, pour être électeur de second degré, il fallait payer une contribution de 10 journées de travail. Avec la révision de la Constitution, le sens d'éligibilité aux assemblées de département est monté à 40 journées de travail. Donc on monte un sens quand même. Le système d'élection indirecte est gardé, et les citoyens sont éligibles à l'Assemblée nationale, il est vrai, mais on a remonté un sens. Donc c'est quand même très visible ce qui se passe dans l'opération. On augmente le sens qui est requis pour être élu aux assemblées intermédiaires. Pour être élu, non pas pour y être électeur, celui-ci reste le même, mais on augmente le sens d'éligibilité aux assemblées intermédiaires. On supprime le sens d'éligibilité à l'Assemblée nationale, et on augmente le sens d'éligibilité aux assemblées intermédiaires. Oui, c'est très intéressant, mais
tu ne penses pas que ce soit avec cette... On l'a fait avec la même intention que celle de Loustalot, de permettre en droit ce que ne se produira jamais en fait, de fait.
Oui, je suis d'accord, Yann. Je pense que ça, c'est certainement, mais de toute façon, c'était hypothétique. Il me semble que une majorité, en tout cas un nombre important de gens, pensaient que c'était ça qu'il fallait faire. De toute façon, c'était juste un bon principe, difficile à faire admettre à cette population. Ce qui n'est pas la même chose que violer les principes. en disant, bon, voilà, c'était pour des raisons pratiques, c'est ça le principe normatif, mais en pratique, pour reprendre la formule de Kant, mais en pratique, on ne peut pas le faire. Il me semble qu'il y a des raisons de penser, des gens qui pensaient vraiment c'est le principe, mais il se trouve que c'est un principe difficile à faire admettre.
Oui, mais ça, c'est, puisque tu parles de Kant, ça va directement à la compte du principe de publicité de Kant.
Ah non, mais je sais, c'est pourquoi lui défend... Oui, mais... Je me permettais de me mentionner, parce qu'on me dira s'il avait, si Sieyès l'a vraiment rencontré, j'ai oublié cet épisode.
Absolument.
Bon, voilà.
Ça retient ces choses de Sieyès.
Bah,
il y a une correspondance.
Voilà. Mais le fait est que chez Kant, c'est dans les deux fois, et c'est argumenté sur de pures questions de principe. C'est la liberté de la volonté. Ce ne sont pas des considérations pragmatiques, ce ne sont pas des considérations utilitaires, c'est la liberté de volonté, c'est domestique, non pas une volonté libre.
Non, je comprends, mais c'est que des... Dans le choix entre deux manières de réaliser le principe, on ne choisit pas la méthode simple, directe, mais une méthode indirecte. Je ne pense pas que Kant aurait accepté ce... J'en sais rien, mais...
Non, mais de toute façon, là, je le citais, c'était pas...
Ouais. Bon, alors, on va ouvrir la discussion. Michel ?